Consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Julien, ici présent?
Oui.
Oui, je le veux.
On dit souvent que le mariage est le plus beau jour d'une vie. Mais à côté de ces mariages remplis de joie, il existe des mariages dont on ne parle pas. Des mariages où le oui n'est pas aussi heureux. On les appelle les mariages arrangés, les mariages forcés. Vous pensez peut-être qu'ils se passent loin de chez nous. Et pourtant, ils existent aussi en Belgique en 2018. Les mariages forcés, on en parle chez nous depuis des années. Des actions sont déjà menées. Seulement voilà, sur ce sujet sensible, les choses semblent avancer si lentement. Une femme est prête à nous raconter son histoire. Elle a connu deux mariages forcés. Elle préfère rester anonyme, nous l'appellerons Sonia. Sonia est d'origine algérienne, elle est née à Bruxelles et y a grandi, mais depuis sa plus tendre enfance, elle sait qu'elle sera promise à un homme qu'elle n'a pas choisi.
Très jeune, on apprend à faire la cuisine, à se débrouiller, à être... On nous explique déjà qu'on est voué au mariage, déjà directement, donc on sait que, voilà, que ça sera avec un cousin ou avec quelqu'un, donc on va régulièrement dans les fêtes, on rencontre les gens.
Vous grandissez avec l'idée que vous allez être mariée.
Oui, que je vais être mariée, que je dois savoir faire la cuisine, malgré que j'ai fait des études et que j'ai bien réussi l'école. Je me débrouillais assez bien. L'école, moi c'était un autre monde, parce qu'à l'école il y avait Blanche-Neige, le conte de fées, tout ça, on pensait que c'était possible, mais d'un autre côté on savait très bien que c'était pas comme ça. Et puis, donc j'ai gardé l'innocence avec papa, tout allait bien. Régulièrement, chaque année, on allait en Algérie. Quand on était là-bas, c'était une autre tradition, on ne sortait pas, les filles ne sortaient pas, donc on ne peut pas sortir. Mais déjà, à partir de 12 ans, j'ai vu que ma vie avait changé, parce que je ne pouvais plus sortir de mon âge, j'avais des formes. Donc du coup, là, c'était déjà des vacances un petit peu à la maison, et papa, parfois, nous emmenait, mais très rarement. L'âge de 15 ans, c'est là que j'ai commencé à sentir que ça sentait le roussi pour moi, parce que j'ai des dames âgées qui venaient à la maison faire des demandes en mariage et tout ça. Moi, j'ai pas vraiment compris. Depuis la naissance, on est conditionné comme ça, donc je pense que c'est comme ça, quoi. On a vu des mariages, l'homme et la femme ne se connaissaient pas, et du coup, moi, je pensais que c'était normal. Et puis, les demandes en mariage se succédaient, tout ça, et puis voilà, je pense que j'ai pensé prendre le moins pire. C'était pas... Pour eux, c'était un choix, parce que j'ai choisi entre les demandes en mariage, mais c'est pas vraiment un choix, vu que j'ai pris la personne pensant qu'il pourrait cadrer avec moi.
Des femmes comme Sonia, Leïla Slimani en a rencontré beaucoup. Elle travaille pour la plateforme liégeoise sur les mariages forcés et les violences liées à l'honneur.
Dans la majorité des cas, c'est des personnes qui aiment leur famille. Mais vraiment, et qui ont vraiment un attachement sincère à leur famille. Donc pouvoir aller dire à quelqu'un d'extérieur « ma famille me fait ça », c'est extrêmement difficile pour elles. Donc il y en a qui vont faire le choix de ne pas parler, de ne pas dénoncer. Il y en a qui vont faire le choix d'accepter des mariages.
C'est presque un privilège quand on vous le fait vraiment penser comme ça. Et papa, que j'aime plus que tout au monde... qui vous tient la main, qui vous protège et qui se réveillait la nuit quand j'étais malade. Je veux dire, il ne me veut pas du mal, ce type, parce que c'est quand même mon papa et que je ne m'imaginerais pas une vie sans mon père. Donc du coup, c'est dans cette démarche-là que j'ai accepté, donc j'étais fiancée à 15 ans, donc je me suis mariée à 19 ans, à Saint-Josse, avec ce type que je ne connaissais pas.
Toutes n'ont pas accepté ces mariages imposés. En 2007, Sadia Sheikh, une jeune fille d'origine pakistanaise de Charleroi, est tuée par son frère parce qu'elle a déshonoré sa famille en refusant un mariage au Pakistan. L'affaire bouleverse la Belgique et se termine devant la cour d'assises du Hainaut pour la famille de Sadia. C'est la première fois que les mariages sont si visibles chez nous. Nawel Ben Saïd, chercheuse à l'ULB et auteure d'une étude sur les mariages forcés en région bruxelloise.
Ce fameux procès de Sadia Sheikh d'il y a quelques années a donné une visibilité à la problématique des mariages forcés et lui a offert d'une certaine manière une légitimité dans l'espace social. Ça s'est par ailleurs accompagné, grâce à l'action de ce réseau mariage et migration, d'un certain nombre d'actions, de prévention et de sensibilisation, notamment dans les écoles. Et donc le fait que ce sujet ait été légitimé dans la sphère sociale et qu'on ait communiqué là-dessus n'a pas pour autant fait augmenter le nombre de cas déclarés. C'est ce qui laisse à penser qu'en réalité, on ne serait pas face à un phénomène de l'arbre qui cache la forêt, puisque si je dois faire une analogie, en 96, je crois, on a découvert les corps de Julie et Mélissa, le nombre de plaintes liées à tout ce qui était viol, inceste, pédophilie, etc., a cru. Le fait que cette thématique ait été à un moment donné légitimée dans l'espace public a ouvert un espace aux victimes de se déclarer victime à ce moment-là. Or, dans le cas ici des mariages forcés, ça n'a pas été le cas. Et c'est ça qui laisse à penser qu'on n'est pas face à un phénomène d'ampleur qui serait tout à fait masqué ou tout à fait dissimulé, et où des victimes par centaines, par exemple, ou par milliers, n'oseraient pas se déclarer.
Une vision des choses que ne partagent pas du tout certains acteurs de terrain. Ils estiment qu'il y a beaucoup de victimes de mariages forcés, mais qu'elles n'osent pas porter plainte. Elles restent donc invisibles, silencieuses. À Bruxelles, le réseau Mariage et Migration traite en moyenne entre 20 et 30 cas par an, mais pour être plus précis et plus efficace, les associations sont en train de créer un registre commun. Ce registre permettra d'avoir une meilleure vision du nombre de cas traités à Bruxelles et en Wallonie, alors qu'aujourd'hui, il n'existe pas encore de collaboration avec la Flandre. Nous retrouvons Sonia après son mariage civil à Saint-Josse à 19 ans. Elle se retrouve embarquée pour l'Algérie pour la cérémonie religieuse.
Étant née ici, le mariage, c'était vraiment, ça m'a vraiment choquée parce que le mari, on ne le connaît pas vraiment. Et puis, il y a une sorte de tradition, on vous emmène, et puis dans une chambre, et puis avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. J'ai vraiment un choc. Jusque maintenant, je suis encore choquée, parce que voilà, je ne comprends pas. Puis le matin, on prend les draps, on les affiche aux yeux de tout le monde, devant tout le monde.
Après la première nuit.
Oui, c'est ça, quoi. Sur un olivier, on met votre drap avec du sang, tout le monde applaudit, tout le monde machin. Enfin bref, c'était vraiment un choc terrible. Et puis... grâce à Dieu, il m'a quitté 3 ans plus tard parce qu'il a eu les papiers belges.
On en parle peu, mais ce que Sonia vient de pointer du doigt est l'une des causes des mariages forcés. Certains y voient une stratégie pour obtenir les papiers en Belgique, et c'est de plus en plus le cas avec les politiques migratoires qui se durcissent.
Aujourd'hui, la possibilité d'accéder au territoire est très limitée.
Nawel Ben Saïd, chercheuse à l'ULB.
Donc on peut entrer par le biais de visa étudiant, mais ils sont... généralement pas facilement dispensés, ou bien par le biais du regroupement familial. On peut considérer qu'en réalité, l'extrême sévérité de la politique migratoire agit comme un incitant à la conclusion de mariages forcés, puisqu'en réalité, ce n'est que par le biais du mariage qu'on peut accéder au territoire. Et donc, dans le cas où c'est un mariage transnational, donc qui implique quelqu'un qui vit dans un pays d'émigration, eh bien, on peut comprendre que le mariage soit à cette fin-là instrumentalisé pour accéder à l'Europe.
Pendant 3 ans, Sonia, dont le mari est parti, s'épanouit enfin avec ses enfants et son travail, mais elle est toujours sous l'emprise de sa famille qui a d'autres projets pour elle.
Et puis après, bon, malheureusement, mon papa a rencontré quelqu'un qui m'a vue et voilà, donc c'était reparti pour un deuxième mariage.
Et là, vous n'arrivez pas à dire non à votre père ?
Non, pourquoi ? Parce qu'il y a aussi le côté religieux aussi, et on vous confère sur cette religion qui fait que voilà, on va dire un Belge ou des relations sexuelles avant le mariage et tout ça, c'était pas possible dans ma tête. Donc même moi, je m'emprisonnais dans ça.
En réalité, les mariages ne sont pas une histoire de religion, mais plutôt de tradition. Dans tous les récits revient aussi le poids de l'honneur de la famille. Et ça, Dienabou va nous l'expliquer. Elle a grandi en Côte d'Ivoire et à 12 ans, elle est mariée à un homme de 10 ans son aîné.
Dès que tu as tes règles, tu préfères te marier, même si tu as 11 ans, parce que j'ai une amie qui avait 11 ans. On te marie de force, on te marie pour ne pas que tu tombes enceinte, ou bien il y a certaines familles aussi, dès que tu commences à flirter avec les garçons et ils vont te marier par peur que tu tombes enceinte, pour eux le mariage peut sauver l'honneur de la famille, mais sans oublier les souffrances de la fille. Donc il y a tout ça, moi j'étais très malheureuse, c'est comme si je vivais des viols à répétition.
Son mari meurt pendant la guerre en Côte d'Ivoire. À 25 ans, Dienabou doit alors se marier pour la seconde fois. Et cette fois, plus que l'honneur familial, c'est l'argent qui est en jeu.
La belle famille voulait me remarier à son grand frère. C'est comme ça que ça se passe. Quand ton mari décède, tu te maries avec l'aîné de la famille. S'il y a un héritage qui est resté, tu es obligé, ils vont t'obliger à te marier avec quelqu'un d'autre pour préserver l'héritage, pour préserver l'argent, pour ne pas que tu pars avec, avec l'argent. Et là, j'ai dit non. Là, j'ai dit non, je ne veux pas, je me suis enfuie.
Quand elle repense à tout ça, Dienabou se souvient aussi de la douleur dans sa chair quand, toute petite déjà, on la prépare au mariage en l'excisant.
Une femme non excisée n'aura pas de mari parce que tu apportes la poisse. Je me rappelle du moment où on m'a écarté les pieds, il y avait quatre femmes comme ça, là, fortes, qui écrasent les pieds de la fille, l'autre les mains et l'autre qui est là avec son petit couteau en train de couper ton clitoris. Et si tu pleures, ils vont dire que tu vas être la rusée des autres fillettes qui ne voudront plus jouer avec toi. Tu t'efforces à ne pas pleurer, mais moi, non. J'avais mal, j'ai hurlé. J'ai hurlé, hein. Donc à chaque fois quand je pense à ça, ça arrive, hein. Par exemple, là, on parle, je suis lucide, j'ai rien, hein. Ça ne me fait pas d'effet. Mais à de ces moments, quand ça arrive, c'est comme si ça bouillonnait dans mon sexe.
Les séquelles physiques et psychologiques sont tellement importantes que sa demande d'asile est immédiatement acceptée. Depuis, elle vit à Mons avec l'homme qu'elle aime, un choix d'amour. Pour la première fois, c'est elle qui décide. Et ensemble, ils ont eu un petit garçon. Nous retrouvons Sonia. Elle aussi a connu d'importantes souffrances. Son deuxième mariage se transforme vite en enfer.
Il a été très très violent. J'ai vécu vraiment une violence conjugale terrible. Les voisins m'entendaient dégringoler les escaliers, m'entendaient vraiment crier. Donc du coup, c'est eux qui ont appelé la police, quoi.
Alors comment aider ces femmes en souffrance? Comment les faire sortir de leur isolement? Parfois, c'est un simple coup de téléphone qui peut les aider. Parce qu'il n'est jamais facile de parler de choses intimes et douloureuses, une ligne téléphonique a été mise en place en 2013 spécialement pour les victimes de mariage forcé. On les écoute en toute confidentialité et on les redirige, si besoin, vers un psychologue, un avocat ou bien même vers une maison d'accueil. L'autre grande action, c'est bien sûr la sensibilisation.
Dans les années 88-89, donc c'était, il n'y avait pas de structure. Ça n'existait vraiment pas à cette époque-là, vraiment. On n'en parlait pas trop, quoi. Non, mais maintenant, je trouve que c'est nécessaire d'aller dans les écoles et de leur dire que leur vie leur appartient. Si moi, quelqu'un était venu à l'école à 18 ans, même avant, me dire, écoutez, votre vie vous appartient, j'aurais peut-être écouté. On aurait pu sauver au moins de ma génération, au moins, on va dire 30%.
Nous prenons alors la direction de Liège. Nous y retrouvons Leïla Slimani qui anime des ateliers dans des écoles sur la question du consentement et du choix du partenaire. Et pour certains élèves, le mariage forcé, ce n'est pas que de la théorie, il est déjà bien réel.
Je prends l'exemple d'une école où j'ai été faire des actions de sensibilisation dans le deuxième degré, donc troisième et quatrième secondaire, une école de technique de qualification et professionnelle. Et dans cette école, après avoir fait les actions donc de sensibilisation, j'ai eu 5 jeunes qui sont venus pour une demande parce que victimes, soit d'un mariage forcé qui avait déjà eu lieu, soit parce qu'ils craignaient qu'un mariage forcé ait lieu. Et quand j'en ai discuté, parce que la directrice, donc je lui ai dit que j'avais reçu des demandes, sans jamais dire de qui il s'agissait, parce que je voulais absolument pas que les élèves puissent être visualisés, elle n'en revenait pas parce que pour elle, il n'y avait pas de jeunes victimes dans son école, il y avait juste le centre PMS qui se disait, bah oui, pourquoi pas, ça peut être intéressant, mais il n'y avait pas de victimes. Or, dans cette école-là, après une action de prévention que dans le deuxième degré, j'avais déjà 5 personnes qui venaient me voir. Donc ça montre qu'il y a des demandes et que les personnes qui sont à côté ne le voient pas forcément. Si je prends un mariage forcé coutumier, c'est pas écrit sur la carte d'identité de la personne qu'elle est mariée. Je peux très bien être mariée de manière coutumière, forcée, et que personne ne le sache. C'est pas écrit sur mon visage que je suis mariée. Je peux dire que je rentre chez moi, et c'est pas chez mes parents que je rentre. C'est peut-être chez mon mari. J'ai eu ça dans des écoles, des jeunes filles qui rentraient tous les jours chez leur mari. L'école est persuadée qu'elles rentrent chez les parents.
Une autre façon de sensibiliser le public, ou de toucher les victimes, de les faire sortir de leur silence, ça peut être aussi le théâtre.
Cette forme d'esclavage continue. Oui, ici en Belgique, comme je vous l'ai dit, voyez, sous les fenêtres, ces grandes fêtes en couleurs, ces papiers qui révoltent dans la rue, des clameurs des chants, des percussions des youyou, des bonnes odeurs qui montent.
Ce jour-là, à Mons, une pièce de théâtre évoque le destin de plusieurs femmes victimes de mariages forcés. Dans le public, pendant la pièce, une femme fond en larmes.
On lui enfonce de la farine de manioc dans le corps. Le corps doit être lâché. Comme je fasse la mort.
À la fin, elle prend la parole et raconte pour la toute première fois son histoire. Hélène est congolaise et à l'âge de 10 ans, son père a voulu la marier à un homme de 65 ans.
En arrivant à la maison, la première personne que j'ai vue, c'était mon papa. Et je lui avais parlé, je lui ai dit « Papa, je constate que j'ai du sang et je ne comprends pas. » Et lui, il m'a jugé tout de suite que j'étais une prostituée. Pour lui, je venais de coucher avec un homme, alors le sang était dû à ça, selon lui, alors que ce n'était pas vrai. Et là, il a tout de suite crié que j'étais une pute. Et il a appelé tous mes frères qui étaient là, que chacun devait me donner 150 coups de fouet. C'était une tradition qui vient de ses parents. Ses parents ont fait la même chose. Il a trouvé que c'était aussi bien de faire pour ses enfants. Et pour lui, le fait d'avoir du sang, et qu'il avait une conclusion que c'était... voilà, que j'avais couché avec quelqu'un alors que ce n'était pas vrai. C'était mes premières règles. Il a décidé, sur le champ, de trouver quelqu'un qui me marierait. Et il a trouvé quelqu'un, il a des 65 ans, chez qui je devais aller.
Pour ces femmes, très souvent, le sujet reste tout de même tabou. Les premiers vers qui elles se tournent ne semblent pas les entendre. Sonia se rappelle de certaines conversations avec son père.
Allez, moi, quand j'ai dit que mon mari me violait, il me dit « Mais enfin, un mari, il fait ce qu'il veut de toi. » Je veux dire, donc tu vas lui empêcher d'avoir des relations, c'est ton mari. C'est forcé sans être forcé, c'est ça le problème. C'est que moi, je veux pas que mon papa ait des problèmes non plus, vous comprenez? Parce que bon, voilà, maintenant, j'ai la maturité que j'avais pas avant et on a été élevés comme ça. Mais c'est le fait que la police, maintenant, ne fait rien parce que un viol entre époux, mais c'est pas condamnable. Hein.
En réalité, ce n'est pas vrai. Le viol entre époux est réprimé en Belgique depuis 1989. Cela fait donc 30 ans que l'on condamne cette violence. Les éducateurs, les médecins, les officiers de l'état civil, mais également les policiers sont eux aussi soutenus dans la prévention des mariages forcés grâce à des formations. La cellule de police Bruxelles-Nord est la première cellule de Bruxelles à avoir été formée à la question des mariages forcés. Nous y retrouvons Anne-Sophie Valo, inspectrice principale.
Dans le cadre d'une plainte auprès de la police, les policiers ne sont pas formés parce que trop peu connus, pas intéressés. La manière de gérer un cas de mariage forcé, c'est du long terme, c'est de l'écoute, c'est de la longue écoute, c'est essayer d'arriver à détecter les éléments qu'il y a et alors prendre contact avec le magistrat, qui est un magistrat d'urgence, je veux dire, qui voilà. Et s'il n'y a pas de preuves, comme j'avais expliqué. Donc quand il n'y a pas de preuves, c'est très compliqué. Alors il n'y a pas de preuves, il doit faire un PV, ça dure longtemps. Enfin, je peux comprendre que voilà, il ne voit pas directement derrière toute la problématique. Voilà. Et ça, grâce à de la formation et avoir par équipe à la limite une personne de référence qui connaît les situations de mariage forcé, excision, etc., ce serait utile.
Vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais dans ce reportage jusqu'ici, vous n'avez entendu que des femmes, des victimes, des intervenantes. Alors ne serait-ce qu'une histoire de femmes? Non, évidemment. Certains hommes sont eux aussi victimes de mariages forcés. On entend pourtant très peu d'hommes se positionner sur ce débat.
Je crois que c'est une thématique qui n'est pas très 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 portée par les hommes.
Fatoumata Sidibé, députée des filles au Parlement bruxellois.
Ils portent cette thématique-là quand il s'agit de faire le texte de loi. Et là, qu'ils sont en avant-plan, effectivement, là où ils portent ce texte de loi. Mais quand il s'agit de parler de violences faites aux femmes, voilà, c'est pas très visible, quoi. C'est pas vendeur, il faut dire les choses comme elles sont. Hein. On aurait fait un texte de loi sur le sujet, ils seraient nombreux à vouloir la co-signer, quoi.
Pourquoi c'est pas vendeur?
C'est pas vendeur parce que c'est assez invisible comme matière. Vous savez, quand on fait des textes de loi, quand on prend des mesures par rapport au logement, par rapport à l'hébergement, par rapport aux pensions, par rapport au salaire, par rapport à la mobilité, c'est des choses qui sont tangibles, qui sont visibles. Tout ce qui est droits humains, c'est pas des sujets concrets qui, dans la vie du quotidien des milliers de citoyens, a une implication réelle. Par contre, pour celles qui le vivent, oui, j'aurais dit, voilà, on a construit un nouveau stade de football, je pense qu'on aurait effectivement beaucoup plus, beaucoup plus d'ouverture, en tout cas par rapport à ce genre de sujet. Mais là, je crois que vraiment, la question des femmes, malheureusement, elle est portée par les femmes, et c'est pas pour rien que tous les ans, on marche, parce qu'on sait que si on s'arrête de marcher, on régresse. D'ailleurs, même en marchant, on régresse.
Justement, ce jour-là, au Parlement bruxellois, on parle de mariage forcé et de violence liée à l'honneur. Certaines femmes politiques se battent pour rendre visibles ces souffrances invisibles, ces drames qui se jouent cachés dans l'intimité des familles.
Le réseau, la parole à ma collègue, Fatima Tassiline, qui, ici, déroge à la règle des 3 mois, puisque je suis sûre que tu as interpellé il y a moins de 3 mois le sujet, et qui peut vraiment faire le lien, parce que c'est ça un jeu de l'hémicycle, le lien entre le sujet porté par l'associatif et l'action des politiques. C'est vraiment sous cette forme de dialogue que je vois les jeudis de l'hémicycle, et donc je suis contente de pouvoir commencer comme ça. Fatima, merci.
Ça fait depuis 2011 que j'ai demandé des auditions sur le sujet, et maintenant on me dit que ça va être possible. Donc c'est vraiment extraordinaire, d'autant plus qu'à la même époque, j'ai relayé les mêmes interrogations par rapport à l'hébergement d'urgence, par rapport à l'accompagnement des victimes. Et voilà, et tout ça, on découvre tout à coup aujourd'hui le problème. Mais voilà, c'est important. Moi, je suis très contente aujourd'hui que finalement ce combat de longue haleine soit enfin porté collectivement.
Porter collectivement, c'est aussi le souhait des acteurs de terrain qui demandent depuis 10 ans de mettre le sujet à l'agenda politique, car les défis sont encore nombreux. Sécurité des victimes, collaboration avec les pouvoirs publics, mais aussi hébergement. Leïla Slimani de la plateforme liégeoise.
C'est pas normal quand on a quelqu'un qui est en danger et qui nous dit « je vais être marié de force », de devoir se battre pour réussir à trouver une place pour qu'il puisse être en sécurité si la personne ne veut pas se marier. Donc, et nous, ça nous arrive de passer 50 coups de fil pour une situation parce qu'on ne trouve pas de place pour pouvoir l'héberger. Alors que si cette personne n'est pas hébergée, c'est une personne qui, du fait qu'elle est partie de chez elle, s'est mise en difficulté.
Vous arrivez toujours à trouver un hébergement ?
Non, on n'arrive pas toujours à trouver un hébergement. Je pense à une jeune fille, pas d'hébergement. Bah, elle a fait croire qu'elle était malade pour être hospitalisée. En se disant, bah, j'espère que bon, bah, cette nuit, je vais à l'hôpital, lui dire que je ne suis pas bien, on va me mettre dans un lit. Bah, j'espère que demain, on aura quelque chose.
Sonia, elle, s'en est sortie. Après la mort de son deuxième mari, elle part vivre loin de la pression familiale. Il lui faudra des années pour refermer ce chapitre et pardonner à son père. Si Sonia raconte aujourd'hui son histoire, c'est d'abord pour ses enfants, mais c'est aussi pour les autres victimes. Une histoire de femme libre, libre d'avoir enfin choisi l'amour.
Cette violence dans cette dernière relation-là qui m'a aussi chamboulée, je ne voulais même plus personne et tout ça, c'est que voilà quoi, c'était impossible. D'ailleurs, j'ai pris même plus que 5 ans pour me reconstruire après ça. Et là, maintenant, je suis en couple avec un Allemand, je suis super heureuse avec lui. À 30 ans, ma vie a commencé, quoi. Voilà, vraiment, j'ai su qu'il y avait des vraies relations humaines, qu'il y avait des choses non forcées, pas consenties, de l'affection, tout ça. Oui, c'est un peu bizarre quand on dit un ado, 15 ans, oui, mon premier amour, moi, c'est bien, bien plus tard, à 32 ans. Mais voilà, quoi, je veux dire, j'ai plus de haine de la vie.